1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour ce grand direct spécial Journée internationale de la femme. Oui, nous sommes le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et en plus, c'est mardi, ça tombe bien, donc on vous propose un grand direct entièrement consacré à cette thématique féminine. Aujourd'hui, 6 sujets, avec toutes des femmes autour de moi, j'ai beaucoup de chance. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
On va commencer avec Aude et Melinda. Bonsoir, avec un regard sur les activités à Lausanne autour de la féminité, Aude.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Et puis, une activité donc qui s'est faite cet après-midi, qui vient de se terminer.
Oui, tout à fait. Il y avait une manifestation à Lausanne qui vient de se terminer.
Voilà, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Nous irons ensemble voir l'évolution du statut de la femme côté Côte d'Ivoire.
Alors, en effet, de nombreuses festivités sont à l'honneur pour cette journée sous le signe de l'autonomisation de la femme. Dans son dernier discours, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, du 25 février 2016, insista sur la capacité de mobilisation des femmes en Côte d'Ivoire, des énergies à mobiliser pour 2020, l'objectif de la Côte d'Ivoire étant de devenir un pays émergent.
Voilà, rendez-vous dans quelques instants. Comment il s'appelle, le président ?
Daniel Cablan-Duncan.
Oh, joli, bravo, bien préparé. Avec toi, Anna, bonsoir. Nous irons interroger Voguet sur cette question de genre.
Oui, bonsoir Fabien. Alors oui, effectivement, hier soir, j'ai eu l'occasion de boire un verre avec un membre du comité, Raphaël Depalan, et qui est entre autres aussi responsable du pôle agression et viol. On discutera tout à l'heure de ça et on écoutera des extraits de l'interview que j'ai passé avec lui hier.
Voilà qui est parfait. Et puis, comme chaque mois, Parle-moi Suisse sera de retour ce soir, mais il s'intitulera Parle-moi Femme. Ça tombe bien, nous sommes le 8 mars, c'est l'occasion justement de faire muter cette chronique. Enfin, nous parlerons des combats féminins. Ashley, bonsoir.
Bonsoir. Alors oui, moi j'ai fait une interview avec une jeune étudiante à l'Université de Genève qui est pro-féministe et qui a plein de choses intéressantes à nous dire.
Du côté féminin aussi, puisque, on le répète, c'est cette journée spéciale. Et puis, en toute fin d'émission, nous parlerons brièvement de l'émission de la semaine prochaine, émission spéciale. Elle aussi, elle sera consacrée à la semaine d'action contre le racisme. C'est une semaine qui se déroule un petit peu partout, mais à Lausanne, entre autres, la soirée à thématique féminine, ce soir dans le Grand Direct, les activités de ce 8 mars à Lausanne, le statut de la femme en Côte d'Ivoire, la question du genre selon Voguet, Parle-moi femme et le combat des femmes à travers le monde et un peu partout. C'est le menu de cette édition spéciale du Grand Direct de Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
1, 2, 3, 4.
Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, on célèbre la Journée internationale de la femme. Pour l'occasion, nous recevons Melinda et Aude. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors Aude, tu fais partie de l'association Feminista et Melinda fait partie du comité pour le 8 mars. Vous êtes donc avec nous pour parler de cette journée et des événements qui ont eu lieu à Lausanne. Alors, basiquement, pourquoi une journée pour célébrer la femme ?
Oui, alors tout d'abord, juste une petite précision. L'ONU parle effectivement de la journée de la femme, mais les organisations féministes préfèrent dire la journée internationale des femmes.
Donc la femme, les femmes, cette nuance est-elle vraiment importante, Aude ?
Oui, alors elle est même fondamentale parce qu'il n'existe pas une seule condition féminine unique et uniforme. Elle varie selon les classes sociales, l'origine ethnique, le lieu géographique et encore bien d'autres critères. Et donc, les luttes que les femmes mènent à travers la planète, elles sont multiples, même si certaines se retrouvent pratiquement partout, comme par exemple la lutte pour l'égalité salariale ou encore contre les violences faites aux femmes.
Ce sont des combats donc de tous les jours. Quel est l'intérêt de faire une seule journée ?
Principalement pour une question de visibilité, puisque les luttes des femmes, comme leur parole, ne trouvent pas une place équitable dans l'espace public qui est encore majoritairement masculin.
Ah oui, c'est pas un peu exagéré tout ça ?
Malheureusement pas, parce que si on prend un exemple parlant, par exemple celui de la représentation des femmes dans les médias, selon le Bureau de l'égalité suisse, le taux de représentation s'élevait en 2010 à 24% de femmes. Et donc, nous sommes 50% de la population et nous avons droit à un peu moins d'un quart de présence médiatique. Donc, une journée pour les femmes et leur lutte, c'est de loin pas suffisant, mais nous n'allons pas manquer d'investir l'espace public. Et cette année, le comité du 8 mars et la coordination romande contre le projet prévoyance 2020 ont décidé de dédier le 8 mars aux retraites. Ces deux groupes, ils sont constitués de femmes et d'hommes actifs dans les syndicats et milieux politiques de gauche. Et ils se préparent à... Enfin, ils ont fait une manifestation cet après-midi.
Le travail à la fête, la retraite à la déchette, toute la vie pour travailler, toute la mort pour se reposer.
Alors effectivement, elles nous rejoignent ici dans le studio, puisque la manifestation, ça passe, ça évolue, ça bouge. Elles sont toutes habillées en uniforme de travail. Elles me paraissent un peu contrariées quand même. Bonsoir mesdames.
Désolée de perturber votre émission, mais notre message est fondamental. On souhaite tout d'abord remercier le Conseil fédéral qui veut diminuer les retraites de tous ces paresseux et paresseuses qui veulent arrêter de travailler. On l'encourage même à aller plus loin dans sa réforme, augmenter l'âge des retraites des femmes de 64 à 65 ans et favoriser le deuxième pilier au détriment de la VS, ce n'est pas assez. Abolissons les retraites. Alors on va vous quitter maintenant, il faut qu'on continue notre manifestation pour convaincre la population oisive de Lausanne de se joindre à notre mouvement. Vive le boulot, à bas le repos.
Voilà, merci mesdames. Mélinda, est-ce que tu peux nous expliquer que font ces manifestantes ici ?
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une attraction de rue. Le comité du 8 mars, on a décidé d'organiser une manifestation humoristique à Lausanne pour attirer l'attention de la population sur la réforme des retraites proposée par le Conseil fédéral. Le nom, c'est Prévoyance 2020. On a également distribué dans les gares et dans d'autres lieux publics un petit journal qu'on a fait, le 8 minutes, qui explique les raisons de notre colère. Donc on a fait aussi d'autres actions qui ont lieu dans toute la Romandie. Ce n'était pas seulement lausannois, c'était dans toute la Romandie.
Ouais, en quoi consiste cette réforme de retraite que tu nous cites, Prévoyance 2020 ?
Alors tout d'abord, à l'élévation de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, sous prétexte d'égalité de traitement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui l'égalité salariale n'est pas atteinte, il y a une différence de 15%. Et en plus, cette augmentation, ça pourrait être également un pas vers l'augmentation généralisée de l'âge de la retraite à 67 ans, comme les veulent les milieux de la droite. Donc le projet propose également une baisse importante du taux de conversion, ce qui signifie une baisse de 12% des rentes du deuxième pilier. C'est énorme. Imaginez par mois la différence, moins 12%. La réforme demande aussi une hausse de la TVA de 1% pour financer les retraites. Et la TVA, c'est la forme la plus injuste d'impôt parce que les bas revenus la subissent plus fortement que les hauts revenus. Le projet propose une maigre compensation par une augmentation des rentes mensuelles de l'AVS de 70%, mais ça ne compenserait pas ce 12% de la baisse du taux de conversion.
Oui, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Alors pour quelles raisons en faire le thème principal de ce 8 mars ?
Bon, tout d'abord, les femmes sont évidemment touchées par l'élévation de l'âge de la retraite à 65 ans. Mmh. Et comme elles ont des salaires, on a vu, inférieurs aux hommes, les inégalités salariales sont de 15% en 2014, et qu'elles font plus de temps partiel, elles touchent des salaires inférieurs et ont un deuxième pilier plus bas et subsistent en général plus généralement sur les revenus de l'AVS. Donc même si le projet de prévoyance propose une hausse de 70%, c'est pas beaucoup parce que la hausse, elle est pas définitive. C'est-à-dire que le Parlement doit encore discuter du projet et cette hausse de 70% peut se retrouver éliminée du paquet.
Et puis si c'est maintenu, comment ça va se passer ?
Alors même si elle est maintenue, les syndicats et les milieux de gauche, nous la jugeons vraiment insuffisante pour vivre dignement. C'est pour cette raison qu'on a lancé l'initiative populaire AVS+, qui propose une augmentation des rentes mensuelles de 10%. Donc ça équivaut à peu près à une augmentation mensuelle de 117 à 235 francs par mois pour les personnes seules et jusqu'à 352 francs par mois pour les couples. Donc votez oui à AVS+, le 25 septembre prochain, ce sera l'occasion d'améliorer les conditions des retraités et donner un signal fort aux autorités comme quoi on veut favoriser une AVS plus solidaire et pas, et contrairement à maintenant, où le deuxième pilier est plus fort alors que c'est un système qui est plutôt fragile car basé sur le système boursier.
Merci pour ces explications, Mélinda. Le débat est lancé, on aura l'occasion d'en reparler puisque ces votations auront lieu le 25 septembre prochain. Au niveau des activités de Féminista ou autres, est-ce qu'il y a des dates à annoncer ?
Oui, le 14 mai prochain, ce sera les 25 ans de la grève des femmes en Suisse, qui a eu en 1991. Et comme c'est également l'année des 20 ans de la loi sur l'égalité, on va en profiter pour faire de cette journée le thème principal. Donc si vous voulez participer ou avoir des informations supplémentaires, contactez l'Union syndicale vaudoise à à l'adresse mail pardon, suivante info@usv-vaux.ch.
On vous met les liens sur notre site avec le podcast de cette chronique. Et puis un dernier mot sur la manifestation d'aujourd'hui. Elle arrive au bout, gentiment?
Oui, elle arrive au bout. Et c'était absolument génial de voir la tête des gens quand on a crié des slogans horribles, comme quoi on voulait travailler indéfiniment. Ils ne comprenaient pas. C'est l'intérêt de ces manifestations. On distribue le tract, bien sûr, en même temps, mais voir la tête surprise des gens, bah là, on attire l'attention vraiment.
Donc des tracts, des slogans et puis des uniformes un peu cocasses.
On était toutes belles, avec des belles perruques, des uniformes de travail. On a bien ri.
On va aussi vous mettre une photo de l'équipe sur notre page internet avec le podcast de cette chronique. Merci beaucoup Mélinda, on remercie
Merci
également Aude pour toutes les informations pour cette première chronique de la journée de la femme, chronique à retrouver sur notre site django.fm. Merci
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je garde la TV, puis des films en jogging. Tellement plus rien qui se passe dans ma vie. Je me couche à 9h, je me lève de bonne heure. Pour aucune raison spécifique, je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir. Je suis rendu plate à mourir. Je file mon cerveau ramollir.
On parle de cerveau ramolli avec Lisa Leblanc, quelques notes de musique sur Radio Django avant de passer à la suite. Ce soir, nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour parler de cette fameuse journée internationale de la femme célébrée sous presque toutes les latitudes. Mais nous parlons aussi du rôle de la femme dans la société ivoirienne, des femmes plutôt très engagées. Alors comment s'annonce cette journée du 8 mars 2016, Daniel ?
Alors jeudi 25 février, les festivités de l'édition 2016 de la journée internationale de la femme sont lancées donc par le premier ministre ivoirien, Daniel Cablan Duncan, sur le thème autonomisation de la femme pour un épanouissement favorable des familles. Un ministre qui a souligné dans son discours que la capacité de mobilisation des femmes en Côte d'Ivoire est à capitaliser.
Les femmes ont-elles toujours été engagées en Côte d'Ivoire ?
Oh, plutôt oui, très engagées. En 1949, des femmes se soulèvent contre la colonisation à Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire, et organisent une marche pour demander la libération de leur époux africain réfractaire à l'autorité coloniale. Arrêtées, brutalisées et tuées, elles ont perdu leur combat pacifique. Néanmoins, pour saluer ce soulèvement, un mouvement rappelle sur la place de la paix leur mobilisation. De cet événement naît un comité féminin pour la lutte et l'émancipation de l'homme noir, suivi après l'indépendance de la création de l'AFI, l'Association des femmes de Côte d'Ivoire en 1963. une association qui a au fil du temps contribué à la reconnaissance des droits politiques des femmes. Certes, même si les femmes en Côte d'Ivoire peuvent voter depuis 1952, leur combat est toujours d'actualité. Les gouvernements se succèdent et les femmes sont encore peu visibles dans les instances politiques. Seules 9 femmes sur 36 membres siègent au gouvernement depuis le dernier changement de janvier 2016.
Mais au-delà de l'engagement politique, Danielle, sur quel terrain s'engagent les femmes ?
La santé, l'éducation, le travail et l'égalité des sexes. La liste est longue. On assiste depuis les années 60 à l'éclosion de différentes organisations féminines centrées sur les droits civiques et sociaux. Et la priorité de ces associations est d'améliorer les conditions de vie des femmes en zone rurale comme en zone urbaine.
Et puis, quelle place occupent les femmes dans l'économie de ce pays ?
Alors, l'économie ivoirienne repose essentiellement sur l'agriculture, qui occupe environ 65% de la population active. Dans les campagnes, les femmes sont très présentes dans l'agriculture de subsistance et représentent 67% de la main-d'œuvre féminine. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par ces femmes. Dans les villes, environ 59% des femmes travaillent dans le secteur tertiaire contre 41% d'hommes. Les femmes participent largement au développement économique de la Côte d'Ivoire.
Voilà, je crois que le cadre est posé. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct par téléphone d'Abidjan Sandra, vous êtes économiste de formation. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la Côte d'Ivoire célèbre ce 8 mars 2016 la Journée internationale de la femme qui a pour thème l'autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Alors, que vous inspire ce thème en tant que citoyenne ivoirienne, Sandra ?
Alors, ce thème nous rappelle que malgré les progrès réalisés, le combat continue pour les femmes en Côte d'Ivoire. Et ce combat n'est autre que la promotion des droits de la femme, de son autonomisation économique. Il faut permettre à un plus grand nombre de femmes en Côte d'Ivoire d'entreprendre des activités génératrices de revenus afin qu'elles se prennent en charge, elles et leurs familles surtout. L'accession des femmes à plus d'autonomie reste un défi, et cela dans tous les secteurs d'activité, comme vous l'avez dit un peu plus tôt. Au sein du gouvernement et au Conseil économique, nous sommes en minorité. Il n'y a que 8 femmes sur 78 ambassadeurs en activité. Et dans l'armée, nous sommes minoritaires. Ce n'est qu'en 2012 que nous avons eu la première femme générale. Et en 2014, l'école militaire préparatoire technique et l'école de gendarmerie ont été ouvertes pour la première fois aussi. Alors, très peu de femmes peuvent accéder à la propriété foncière également, alors que l'agriculture et l'élevage représentent, comme vous avez dit, 60 à 70% de la population active. Donc voilà, donc l'autonomisation, c'est très important.
Merci Sandra pour ce tableau de la femme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les femmes célèbrent une tradition ivoirienne pour souligner leur engagement et finalement leur attachement à cette journée symbolique. Elles seraient censées acheter un pagne. Un pagne pour expliquer aux femmes suisses ce que c'est. Vous pourriez nous dire ce que c'est qu'un pagne, Sandra, en 2-3 mots ?
Alors, le pagne, c'est vraiment la tenue traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il se compose de...
C'est un grand tissu.
C'est 3 pagnes. Voilà, d'un grand tissu, mais en fait, on dit le pagne, mais c'est 3 pagnes. Vous avez le haut... en général qui est cousu comme une camisole, vous attachez le bas de façon traditionnelle avec un nœud, et ensuite vous avez le 3e pagne que vous mettez autour de l'épaule, et c'est vraiment la tenue traditionnelle, ou sur la tête, et c'est la tenue traditionnelle pour les fêtes, pour aller travailler, voilà. Après, tout dépend de la qualité du pagne.
Et la tradition veut que chaque journée internationale de la femme, les femmes donc achètent ce pagne, et qui cette année, en fait, porte l'effigie d'un pilote d'avion, justifiant la capacité des femmes à lier plusieurs compétences, à la fois techniques, intellectuelles et physiques. Est-ce que vous avez acheté votre pagne, Sandra ?
Alors malheureusement non, parce que j'ai pas trouvé les points de vente, ils n'ont pas communiqué dessus. J'ai eu la chance de le voir, mais j'ai pas pu. Je pense le trouver. On m'a donné quelques adresses, mais et beaucoup de femmes comme nous étions hier à la recherche du pagne.
De ce fameux pagne.
Oui, tout à fait.
Que pensez-vous des motifs de ce pagne? Est-ce que c'est représentatif des femmes de Côte d'Ivoire quand on parle justement de cette capacité en fait à mobiliser plusieurs compétences?
Oui, oui, je trouve déjà le choix de la couleur, le orange, blanc, vert, qui représente vraiment cette femme ivoirienne, citoyenne, et surtout le pagne qui est symboliquement, fait partie de notre culture, c'est ce qu'on porte traditionnellement, donc c'est cette femme ancrée dans sa culture, mais qui revendique aussi une citoyenneté. Et une femme, par contre, qui est résolument tournée vers le futur et prête à relever les défis pour arracher son indépendance économique. Donc je trouve qu'il est très représentatif de la femme aujourd'hui en 2016 en Côte d'Ivoire.
Et que pensent en général les hommes en Côte d'Ivoire de cette journée internationale de la femme?
Alors là, c'est une question qui est plus difficile. Je vais reprendre ce que le Premier ministre, M. Kablan-Duncan, a dit. Il a demandé aux hommes d'être des partenaires et des soutiens véritables des femmes et de les accompagner dans ce combat, en créant les opportunités de leur insertion réelle dans la vie socio-économique. Je pense que c'est très encourageant, parce que ça montre une réelle volonté politique de la part du gouvernement de consolider et d'élargir la place et la position des femmes dans le processus de développement et d'émergence de la Côte d'Ivoire qui a été fixé jusqu'en 2020.
En 2020. Mais finalement, qui soutient qui? Est-ce que c'est plutôt les hommes qui ont besoin des femmes ou les femmes qui ont besoin des hommes dans ce combat?
Je crois que ce sont les hommes qui ont besoin des femmes dans ce combat aujourd'hui. Ils prennent beaucoup de recul parce qu'effectivement, traditionnellement, ça bouscule énormément les habitudes et les coutumes que nous avions. Mais les hommes ont besoin des femmes dans ce combat. La stabilité du pays et l'émergence du pays ne passera que par la femme. Elle est le noyau de la famille. Elle aide au développement de la famille, l'éducation de l'enfant. Et sans la femme, sans cette émergence de la femme, il n'y aura pas d'émergence du Côte d'Ivoire.
Sandra, quel regard portez-vous sur l'évolution des droits de la femme en Côte d'Ivoire depuis le décret Mandel de 1939 qui imposa la règle d'un âge minimum pour le mariage et permit aux femmes de choisir leur époux, et le décret Jacquinot de 1951 qui permit aux femmes de divorcer sans être punies et d'introduire la monogamie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une grande évolution en fait depuis ces 50 dernières années en termes de revendications et de droits?
Alors oui, ça a quand même été un grand changement pour la femme en Côte d'Ivoire, parce que avec la suppression de la polygamie, on a eu également la réforme de la dot. En plus, ce code civil de 1964 qui a intégré donc le décret Jacquinot et le décret Mandel, on a eu la communauté des biens qui a protégé la femme. Parce que traditionnellement, en Côte d'Ivoire, la femme était mariée sous la séparation des biens. Et en cas de dissolution du mariage, elle se retrouvait démunie de tout. Donc cette communauté de biens qui a été introduite dans le Code civil a beaucoup aidé la femme. Ça lui a permis d'obtenir le partage lors d'une dissolution, et ces changements ont été une grande réussite. Les droits des femmes en Côte d'Ivoire, elles ont commencé à être un peu plus indépendantes, elles ont pu travailler, ouvrir des comptes, et sans avoir besoin aussi de l'autorisation de leur mari, puisqu'elles avaient déjà la possibilité de divorcer, donc à peu près raison, cette indépendance économique a été favorisée donc par ces deux lois là, qui ont été assez révolutionnaires.
Donc, forte de ces acquis, les femmes portent aujourd'hui la culotte, Sandra?
La culotte,
c'est relatif. J'aurais cependant écouté. Oui, je vous laisse. Excusez-moi, Sandra.
Oui, oui, non, je vous en prie. Allez-y.
Alors, c'est plutôt mitigé, mais ça rejoint malheureusement peut-être en fait la vision de la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Kwasi Yao, oui. Et qui dit qu'il y a encore beaucoup à faire pour la promotion et l'émancipation des femmes en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? À quel niveau se situent les failles?
Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément d'inégalités. Par exemple, jusqu'à
dans les salaires.
Présent, en 2016, déjà dans les salaires, dans les salaires.
Mais est-il vrai que les femmes touchent 60% de moins que les hommes en Côte d'Ivoire ?
Oui, encore. Moi, j'ai pas les chiffres exacts, mais effectivement, il y a une forte inégalité des salaires. Comme vous avez pu constater aussi, il y a une forte inégalité dans les postes de décision. Les hommes sont en grande majorité. On subit le harcèlement sexuel au travail. Les dernières statistiques que j'ai eues de 2012, c'est que le taux d'alphabétisation des jeunes entre 15 et 24 est de 72,3% chez les hommes, alors qu'il est de 62,7% chez les femmes, car le plus souvent elles sont mariées jeunes ou ont des grossesses non souhaitées. L'avortement est toujours interdit en Côte d'Ivoire. Donc il y a cette inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir en Côte d'Ivoire.
Mais Sandra, comment est-ce que vous vous engagez finalement par rapport à ce combat en tant que citoyenne d'Abidjan ? Comment est-ce que vous vous mobilisez ?
Alors la question est un peu plus difficile. Je ne sais pas si je dirais que en tant que citoyenne, j'essaie d'informer mes confrères sur leurs droits, parce que vu le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire, surtout au sein des femmes, beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Donc d'un point de vue, je ne sais pas comment dire ça, mais on essaie d'informer un peu autour toutes ces femmes, quels sont leurs droits, comment elles peuvent se défendre, elles peuvent ouvrir des comptes. Beaucoup de femmes ne savent pas ça, alors énormément ont des activités, mais elles restent dans l'informel. Et aujourd'hui, le rôle des femmes, c'est d'informer les autres que voilà, elles peuvent sortir de ce secteur informel et optimiser leurs revenus afin de justement rentrer dans ce processus là et permettre l'épanouissement de leur famille et leur épanouissement personnel. Voilà.
Effectivement, on voit Sandra qu'il y a beaucoup de travail à faire encore en Côte d'Ivoire. Mais être femme en Côte d'Ivoire, c'est s'engager, se mobiliser pour préserver certains acquis et revendiquer de nouveaux droits. Merci beaucoup Sandra d'être intervenue en direct par téléphone d'Abidjan. Merci et bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
Et puis on termine peut-être sur ce proverbe ivoirien. Aucun arabe n'a donné des fruits sans avoir des fleurs. Merci beaucoup Daniel pour la préparation de ce sujet.
Merci.
Avec de la musique de Côte d'Ivoire qui nous était proposée par Daniel et Sandra, notre interlocutrice de Côte d'Ivoire.
Radio Django, 18-19h.
Une édition spéciale ce soir du Grand Direct entre 18 et 19h puisque nous parlons de la journée de la femme et nous continuons ce soir avec toi Anna, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors hier tu es allée à la rencontre d'un membre de l'association Voguer. Pour rappel, il s'agit de l'association cantonale œuvrant pour les personnes concernées de près ou de loin par des questions LGBT. Alors dis-nous-en un petit peu plus sur cette rencontre.
Alors tout à fait, hier soir j'ai discuté autour d'un verre avec Raphaël Depalan, membre du comité mais également responsable du pôle agression et viol de l'association Voguer. Alors, les a priori et les préjugés laisseraient entendre que la question féminine ne touche que de très peu la communauté LGBT. Or, ce n'est pas si sûr. Nous avons donc abordé la question du genre avec Raphaël et je lui ai notamment demandé dans quelle mesure cela concernait l'association. Nous allons vous diffuser plusieurs extraits de cette interview. En voici le premier.
Et on l'écoute tout de suite.
Alors, la question du genre, ben oui, elle est abordée de fait par... par l'expression qu'on peut avoir de son genre en étant un garçon ou une fille, assigné comme un garçon ou une fille. Ensuite, l'expression qu'on peut avoir qui va du masculin au féminin et la non-linéarité, je ne sais pas si ça se dit, mais les prédispositions qu'on n'a pas en tant qu'acquis, autant dans le genre que dans l'orientation sexuelle, ce qui n'est donc pas prédéfini, où on peut même se poser la question pour le sexe, puisque l'assignation du sexe qu'on nous donne à la naissance est basée que sur les organes sexuels visibles externes, donc on est un homme ou une femme, que si on a... des gonades et une paire de lèvres, une vulve, et que ça s'arrête uniquement là, ça, on ne se pose pas la question du taux d'hormones qu'on peut avoir, qui pourrait définir aussi bien notre sexe ou d'autres éléments.
Est-ce qu'il y a des actions par rapport à ça?
Alors, plus particulièrement sur la thématique des femmes, je pense qu'il y a... encore, et là c'est, je pense, en partie l'avis de l'association, mais je ne voudrais pas non plus trop l'engager là-dedans, et c'est en grande partie le mien, que les femmes sont encore et subissent encore une violence structurelle assez forte par rapport à une société encore passablement patriarcale, et je pense principalement les femmes lesbiennes ou les femmes... qui aiment d'autres femmes, où elles subissent premièrement la première violence structurelle du fait d'être une femme, mais en plus d'avoir une orientation sexuelle minoritaire. Et les statistiques nous montrent que ces femmes-là sont aussi plus susceptibles de vivre de la violence, de subir de la violence, sont aussi plus à risque en termes de santé, vont moins facilement consulter des spécialistes et du coup se retrouvent aussi dans des situations de parcours de vie ou de fragilité sociale plus importantes.
Comme vous pouvez le constater, notre ami Raphaël est acquis à la cause féminine. J'ai donc décidé de me faire l'avocat du diable en lui demandant à quoi ça sert finalement cette journée de la femme si l'on veut un monde vraiment égalitaire. Voici sa réponse.
Ben, si on veut pas de discrimination, il faudrait que l'article 8 de la Constitution concernant l'égalité des droits et des traitements soit absolument respecté jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas pour bon nombre d'inégalités sociales à différents niveaux. Et je pense que de manifester permet premièrement de rappeler les inégalités vécues par les femmes, ce qui n'est pas antinomique avec les inégalités que peuvent vivre certains hommes ou les hommes en général. Hein. C'est pas, on est toujours en train de mettre les sexes en opposition, alors que je pense qu'ils le sont pas forcément. Et puis ensuite, je pense principalement que de relever durant une journée les besoins spécifiques aussi, de mettre peut-être à l'agenda politique aussi, une journée où nos élus sont ou devraient avoir une forme d'obligation de s'exprimer sur ce sujet n'est pas quantité négligeable.
Certes, la question féminine apparaît au moins une fois par année à l'agenda politique. D'après les paroles de Raphaël, il y aurait encore passablement de choses à faire.
Alors tout à fait, Fabien, et c'est justement ce que je lui demande dans l'extrait suivant. Que peut-on faire face à ces discriminations envers les femmes, finalement ?
Je pense que les choses déjà qui me semblent les plus logiques, ou en tout cas les moins incontestables, sont... au niveau salarial, au niveau des responsabilités, au niveau des tâches ou de la reconnaissance des tâches aussi dites domestiques. Une femme qui reste 40 ans à la maison et qui s'occupe de ses deux enfants aura sans doute pas la même protection au niveau de la VS que son mari. Je pense que par rapport à la maternité, il y a encore... un bon bout de chemin à faire par rapport à la violence aussi. Je pense que quand on voit certains articles de loi qui définissent par exemple le viol comme étant uniquement une pénétration pénovaginale dans le code pénal suisse, on se rend bien compte que la femme n'est pas protégée contre toute autre forme qui pourrait être considérée par le dictionnaire comme un viol, n'est pas protégé contre ces autres formes de viol, hormis celles que je viens de nommer. Donc je pense que la loi pourrait régir un bout de cela, et puis ensuite les protestations, les manifestations, l'engouement social pour ça. On sait qu'on n'est pas dans un pays qui a dans son ADN de vouloir manifester ou revendiquer des droits. Et en cela... cette journée a son importance.
Finalement, notre extrait va se terminer sur une note positive. J'ai demandé à Raphaël s'il avait une icône féminine qu'il appréciait particulièrement.
Oui. Je suis pris au dépourvu. Non, pas une spécifiquement, mais plusieurs. Je pense que... Ben, peut-être pas forcément une personnalité spécifiquement, mais je trouve qu'en tant que gay, on me perçoit souvent comme étant quelqu'un qui ne peut pas percevoir l'aspect désirable, tout ce que peut dégager une femme. Et je trouve que la femme en général, qu'elle soit mince ou ronde, drôle ou moins drôle, est quand même... à de nombreux intérêts à regarder, à être vu, et pour lequel je porte un certain amour.
Merci Raphaël de Palan d'avoir ouvert la porte de vos gays au micro de Radio Django et d'avoir cassé certains préjugés que l'on pourrait avoir. Merci Anna d'avoir été ouvrir cette porte à vos gays.
Merci.
Et pour clôturer cette chronique sur un morceau spécialement choisi par notre invité, voici ce qu'il en dit.
Donc c'est une chanson d'Erta Kitt qui s'appelle C'est si bon, et cette chanson joue quand même partiellement sur les clichés qu'on pourrait associer au fait d'être une femme, d'avoir envie de richesse, de diamants, de convoitise, et d'être convoitée, tout en sachant que la personnalité d'Erta Kitt était l'antithèse de ce que je viens de dire et de cette chanson. Donc le parallèle entre l'un et l'autre me fait penser qu'il y a un champ des possibles pour la femme qui est indéfinie.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien de tout, mais qui en disent long, en voyant notre mineur en vie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la frisson. C'est si bon, ses petites sensations. Ça vaut mieux qu'au million. C'est tellement, tellement bon. Oh, c'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessous, bras dessous, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. En ce bon, je cherche un millionnaire avec un rang Mercedes-Benz, Minkos, des bijoux. Ah voilà. En ce bon, peut-être quelqu'un avec un petit yacht, hein. S'il parle français, espagnol, italien, allemand, swahili, peut-être quelque chose comme hebrew. Ça m'est égal, les langues, il y a beaucoup de lutte, voilà. Oh, c'est bon. Il sera très crazy, non? You get what I mean, don't you? Voilà, c'était...
Ertakit, c'est si bon, une femme pour chanter la femme ce soir sur Radio Django.
Radio Django, 18-19h.
Bonsoir Laure.
Bonsoir Fabien.
Tu es de retour avec la chronique Parle-moi Suisse. En ce 8 mars, tu as transformé le concept de Parle-moi Suisse en Parle-moi Femme. Pourquoi cette mutation ?
Ben écoute, quand j'ai appris que Django se mettait aux couleurs des femmes, je me suis dit qu'après l'identité suisse, bien sûr, c'est intéressant d'explorer l'identité féminine.
Et comme la vérité sort toujours de la bouche des enfants, dit-on, tu as interrogé une petite fille.
Oui, alors c'était un peu risqué, mais je voulais voir comment une enfant d'aujourd'hui perçoit le genre. Et je me suis dit au départ que ce serait intéressant de lui poser la question à travers les cinq sens, comme je le fais pour l'identité suisse. Du coup, de lui demander une image de la femme, une odeur de femme, un goût de femme.
Et Gaïa, 7 ans et demi, s'est prêtée au jeu.
Oui, alors avec l'accord de ses parents, bien sûr, je les remercie ici. Mais en fait, dès qu'on a commencé l'interview, ce qui m'a fascinée, c'est que, eh bien, en interrogeant les cinq sens, je me suis rendu compte qu'elle voyait que les femmes portaient des jupes, elle voyait qu'elles avaient les cheveux longs et parfois du maquillage. C'est qu'en fait, Gaïa voyait finalement aucune différence entre les hommes et les femmes. Donc, j'ai dû revoir un peu mon concept encore et je lui ai demandé de me décrire son quotidien à l'école. Et là, tu vas voir, bah, des différences sont apparues.
Alors, on écoute tout de suite Gaïa, 7 ans et demi.
Abracadabra, je veux avoir la meilleure note en dictée. Tu veux le secret de ma magie, ma poésie, je l'ai apprise. Ah. Parce qu'en fait, regarde, c'est là qu'elle l'apprend. Je m'appelle Gaïa et j'ai 7 ans et demi.
Est-ce qu'il y a une fois où tu as ressenti que quelqu'un t'a fait une remarque sur le fait que tu étais une fille? Et puis ça t'a fait bizarre?
Non.
Non, jamais? Et à la récré, il y a des différences?
Bah, les garçons, ils jouent plus souvent. Bah, souvent, ils se bagarrent. Tandis que les filles, elles se bagarrent moins. Les garçons, parfois, ils jouent à la bagarre.
C'est quoi la raison de la bagarre? C'est juste qu'ils ont envie de se bagarrer?
Non. En fait, ils jouent à la bagarre.
Ils jouent à la bagarre?
Oui. Les garçons aussi, souvent, ils jouent au foot.
Puis toi, avec tes copines, vous jouez à quoi?
Bah, parfois, on joue au loup.
Mm-hmm.
Et en fait, il y a des cordes et on peut faire des roulades dessus. Souvent, on fait ça.
Et les garçons, ils aiment moins faire ça?
Mm-hmm.
Mais il y a quand même un ou deux garçons qui viennent ou c'est toujours que les filles?
On est toujours que les filles.
Ah ouais? Il y a quoi comme autre moment où vous êtes que les filles?
Quand on a le cours de gym, mm-hmm, dans les vestiaires.
Ouais. Puis à la gym, après, vous mélangez?
Oui.
Ouais. Vous faites les équipes, les garçons et les filles?
Oui.
Et qui c'est qui est plus fort?
Souvent les garçons.
C'est quand même plus fort?
Mmh, parfois. Mais les équipes, on mélange les filles et les garçons. Ouais. Parce que souvent les garçons, ils sont plus forts. Donc du coup, après, sinon, c'est pas très équilibré.
Mmh. Mais il y a des sports où les filles, elles sont plus fortes ou pas?
Oui.
C'est quoi?
La danse.
Toi, tu fais de la danse?
Oui.
Ah, et il y a beaucoup de filles?
Oui. Et aussi, en gymnastique, moi, je suis forte. Parce que je sais faire le grand écart.
Et il y a des garçons qui arrivent à faire le grand écart?
Non. Par contre, il y a une autre fille dans ma classe. Elle arrive à faire les deux grands écarts, mais moi, j'arrive à faire qu'un seul. Et puis, il y a une autre fille. Elle court très vite. Et parfois,
plus vite que les garçons?
Parfois, oui, elle les bat. Et puis moi aussi, une fois, j'ai battu un garçon.
Tu me racontes?
On était à la récréation, on faisait des courses. Et puis, moi, j'ai fait contre un garçon, sur le pré au couvert. Parce que le pré au couvert, c'est un rectangle. Il est assez grand. On commence d'un endroit, on va de l'autre côté. Et après, on revient. Et j'ai gagné avec contre un garçon.
Et qu'est-ce que t'as ressenti? T'étais contente?
Oh. Mmh.
Pourquoi t'es toute timide là? Tu dis, j'ai gagné contre un garçon. Ça te fait encore un peu bizarre?
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est pas normal. T'avais l'impression que c'était pas normal. Parce que les garçons sont plus forts, c'est ça?
Non.
Ah bon, non?
Ils sont pas tout le temps plus forts.
Lui, il était fâché.
Un peu.
Et tes copines, elles étaient fières de toi?
Oui.
Et les garçons, ils ont dit quoi?
Ils ont rien dit.
Ils ont rien dit? Ils t'ont pas dit bravo? Non. Mais quand un garçon, il gagne, d'habitude, vous lui dites bravo, non?
Oui.
Et pourquoi toi, ils t'ont pas dit bravo, tu sais?
Je sais pas.
Ça t'a fait bizarre, hein, quand personne dit bravo?
Mes copines, elles ont dit bravo.
Bravo tes copines. Alors, tu crois que les garçons sont vraiment plus forts que les filles ou c'est juste quelque chose qu'on pense?
C'est juste quelque chose qu'on pense.
Parce que ils font pas le grand écart non plus.
Non.
Et à l'école, quand il faut apprendre des choses, il y a une différence pour faire les devoirs ou les exercices en classe?
Bah, en classe, les filles finissent souvent avant.
Ah ouais?
Mais par contre, en maths, les garçons, y en a un, il est très fort en maths.
Donc lui, il finit toujours plus vite que tout le monde?
Oui.
Puis après, les autres, ils finissent en même temps? Ou toujours les filles plus vite?
Pas toujours les filles plus vite. Parce qu'il y a des filles qui arrivent moins bien à faire.
Mais toi, t'arrives vite?
Oui.
Alors, si on doit redire, une femme, ça ressemble. Comment on voit que c'est une femme, maintenant qu'on a discuté de tout ça? Elle a les cheveux longs.
Parfois, elle se maquille.
Mm-hmm.
Elle met des robes et les hommes ne s'en mettent pas.
Mm-hmm.
Et puis...
T'as pas retrouvé d'autres choses?
Non.
Eh ben non, ben voilà, c'est tout. Merci Laure, on retrouve Parle-moi Suisse le mois prochain.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.
On en parle toute cette émission le 8 mars, c'est une journée dédiée aux femmes depuis plus de 60 ans. Les combats d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Qu'en pensent les jeunes filles d'aujourd'hui? C'est la question qui t'a interpellée aujourd'hui, Ashley.
Oui Fabien, c'est justement la question que je me posais et n'arrivant pas à y répondre seule, j'ai demandé l'avis d'une étudiante en histoire. Elle est d'origine suisse et ghanéenne, active dans les milieux associatifs, surtout lorsque les thèmes parlent de la femme ou de racisme. J'ai commencé par lui demander ce que représente pour elle la journée de la femme.
Pour moi, c'est une journée de solidarité, en fait. Une journée où j'ai envie de penser au combat mené par les femmes toutes différentes dans ce monde. Parce que voilà, on est différentes, on a des combats différents à mener. Mais une solidarité où, voilà, peut-être qu'en tant que femme noire de Suisse, je ne vais pas me retrouver dans tous les combats. Mais en tout cas, être solidaire avec ces combats. C'est aussi une journée où je pense à toutes ces femmes en fait qui m'inspirent, donc les filles du collectif Afro-Suisse avec lesquelles je travaille, qui sont des sources d'inspiration incroyables, ma mère et ma sœur, qui sont des femmes incroyables, mes amies, ouais, toutes ces femmes qui m'inspirent quotidiennement, je crois que c'est vraiment un moment où je pense à elles et je leur dis vraiment merci, quoi.
La journée étant définie, pour être militante pour cette cause, il faudrait être féministe. Elle m'a expliqué depuis quand elle se dit féministe.
Depuis une année où... Parce que comme je l'ai dit, d'abord je réfléchissais surtout en termes identitaires. Parce que dans mon expérience, j'ai toujours pensé en fait, que le facteur racial jouait un rôle. Il a joué un rôle très fort, il m'a beaucoup marqué aussi. Donc j'ai une mère blanche, un père noir. Et un parcours, c'est pas toutes les métisses qui forcément vivent ça, mais en tout cas, mon parcours était particulièrement marqué négativement par la race. Où aujourd'hui, je me définis en tant que femme noire avec tout ce que ça signifie derrière. Mm-hmm. Et voilà, je pense qu'il y a un moment justement où je me suis aussi rendu compte que mais le fait que je sois femme aussi joue un rôle. Mes expériences, et puis c'est lié bien sûr aux expériences amoureuses, ça commence par là. Étant hétérosexuelle, pour moi ça a commencé par là, quoi. C'est vraiment les relations amoureuses où, voilà, où tu finis le cœur brisé, mais tu essaies de te poser des questions du pourquoi, du comment. Et bah oui, les raisons sont des fois liées à toi, à la personne, donc vos caractères. Mais ce que je me suis aussi beaucoup rendu compte, c'est aussi beaucoup lié en fait à des choses qui nous dépassent. Le facteur racial tombe dedans, parce que je me rends compte que je suis métisse, donc c'était aussi instrumentalisé. D'un côté, j'étais aussi exotisée par des hommes noirs, parce que voilà, j'étais une noire, mais pas trop noire, un peu claire, donc ça rangeait. Mm-hmm. De l'autre côté aussi, femme. Donc, avec des hommes qui devaient aussi se définir dans des critères hyper rigides qui la plupart, se battent encore avec. Enfin, voilà. Donc, je pense que quand j'ai commencé à comprendre, en fait, que mes relations amoureuses, il y avait aussi une explication, pas seulement, mais il y avait aussi une explication qui était plus large. Et j'ai commencé à lire des auteurs qui les avaient thématisés et tout. Je me suis dit, mais en fait, oui, je me retrouve là-dedans. Mais dans le féminisme noir, surtout. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité... Étant en Suisse, je veux dire, mes ancêtres sont aussi les féministes blanches. Je veux dire, c'est elles qui ont lutté pour notre droit de vote. Là, on était un des derniers pays d'Europe à l'obtenir. Je leur dis chapeau bas. La liberté sexuelle, c'est elles. La contraception, c'est elles. Mais aussi des féministes noires qui se sont battues pour nous, qu'on connaît beaucoup moins dans d'autres espaces, mais aussi en Suisse, qui ont aussi thématisé justement la question de la double appartenance, de l'identité. De l'exotisation en tant que femme noire, etc. Donc, je suis vraiment une fille de ces deux traditions-là. Mais le fait que je sois femme noire, c'est clair que le premier féminisme que j'ai, c'est un féminisme noir. C'est un féminisme antiraciste. Qu'il y a de femmes, si ça se trouve. J'en sais rien. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il y ait une solidarité. C'est qu'il y a une solidarité entre ces luttes. Et je prends un exemple. Il y a eu la campagne de l'UDC dernièrement où c'était, il faut protéger nos femmes et nos filles contre les étrangers. Moi, personnellement, je sais que je ne suis pas visée par cette campagne-là. Parce que l'UDC ne pense pas à me protéger, moi, femme noire. Par contre, où je suis visée indirectement, c'est qu'éventuellement, l'étranger homme qui est en train de viser en disant ça... C'est peut-être mon frère, c'est peut-être mon père, c'est peut-être mon gars. Donc, c'est bizarre parce que je suis censée, tu vois. Donc, c'est là où je dis que ça dépend aussi de... Le facteur racial joue un rôle. Mais en même temps, j'étais contre ça parce que t'es en train de... Je me retrouve quand même dans cette... cette catégorie, il faut victimiser les femmes, c'est des pauvres choses qui ne sont pas capables de se battre, le mythe du, entre guillemets, noir violeur, enfin voilà, donc pour moi ça n'allait pas, et clairement il y a une solidarité, tout en sachant que, en fait, je pourrais aussi m'en laver les mains si je voulais, me dire, ouais, de toute façon c'est pas moi qui suis visée, et au contraire, plutôt me battre du côté de mes frères qui peut-être eux sont visés, mais non, il y a une solidarité à avoir, c'est pour ça... Sexisme et racisme, c'est le même combat en fait. C'est le même combat, ça prend des formes différentes, mais même combat. Si tu vas pour un et pas pour l'autre, ou tu privilégies un pour... l'histoire nous a montré que t'arrives jamais à une solution complète en fait. Ça va de pair, ça a été construit en même temps. Il faut les prendre ensemble.
Notre intervenante est donc suisso-ghanéenne. Est-ce que ce métissage lui fait faire un lien direct entre le racisme et le sexisme, Ashley?
Oui, effectivement, oui, forcément, parce que pour elle, comme elle le dit à la fin, il y a un lien entre le racisme et le sexisme, et elle, justement, elle a été touchée par les deux au cours de son enfance, et c'est Enfin, c'est ce qui a permis qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, en fait. Donc, justement, il y a la campagne UDC dans laquelle elle parle, où elle dit qu'elles ne se sont pas directement concernées, toucher nos femmes et nos filles, mais en même temps, elle ne peut pas fermer les yeux parce qu'elle pense justement aux gens qu'on vise, donc les étrangers qu'on voulait renvoyer de par l'initiative de mise en œuvre.
Alors, on parle d'un exemple de slogan publicitaire. On parle peut-être aussi d'autres inspirations. Est-ce qu'il y a des arts qui donnent de l'inspiration ?
Oui, il y a deux arts principalement.
La musique, clairement, pour moi, littérature et musique, ça fait un, quoi. C'est l'un nourrit l'autre. Ouais, c'est vraiment les deux sources d'inspiration et de force pour moi. C'est aussi là où je puise ma force, c'est aussi des moyens de, voilà, quand t'es down et tout, c'est des outils qui vont de pair. Quand j'écris, j'écris avec un fond musical. Quand j'écris, il y a un rythme dans ma tête qui anime ce que j'écris, etc. Donc c'est vraiment les deux, quoi.
Et enfin, que souhaites-tu précisément aux femmes ?
Est-ce que je vais le dire ? Franchement, que qui qu'elle soit, qu'elle trouve une ou un allié. Vraiment une personne à leur côté, pas derrière, ni devant, au-dessus, non, vraiment, à leur côté, une personne qui est prête à être forte quand elles ont accepté leur moment de fragilité, être forte pour elles quand il le faut, être faible aussi, montrer les fragilités, puis montrer qu'elles ont aussi la place d'être là, être une source d'inspiration, être un challenge. Franchement, ouais, cette personne alliée, en fait, qui peut t'énerver comme pas permis, mais en même temps que tu aimes, quoi. Vraiment, que c'est vraiment ce que je leur souhaite à toutes.
On constate, Ashley, que beaucoup de jeunes femmes sont, comme Pamela, victimes de double discrimination par le genre et par la race.
Oui, et beaucoup de jeunes femmes sont comme elles victimes de, comme tu l'as dit, de discrimination par le genre et par la race. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer Pamela, car elle est le reflet d'une Suisse dont on parle peu. On constate que nos regards sont souvent dirigés ailleurs, mais chez nous aussi, il y a du travail. La journée de la femme est pour moi une manière de garder en mémoire le combat de ces femmes qui se sont battues afin d'avoir des droits.
Eh bien, écoute, on retiendra ces mots. Merci beaucoup, Ashley. Une chronique à retrouver sur notre site www.django.fm. Yo, a fly poet, earth traveler, bohemian type. I write, delight mics for rap scavengers. Type like the opposite of cellulite. I just might breathe on your insight, confiscate your height, right? Watch the green tea sipper, exhale light, inhale the inner scope of Christ. Plus the flow nicer. Cats afraid to say the same name twice. The neighborhood's got us caged like mice. So the page stay right. We're losing what's in this maze called life. While privileges be saved for whites. They say enslavement twice. Some say we weak and afraid to fight. Another motor horn a Saturday night. Another newspaper write. Another rape on a Friday night. And then the motor horn a Saturday night. Another journalist type. Another motor horn a Saturday night. Can you imagine what my Sunday be like, Lord? Burning our chamber. Inhale, exhale, a peaceful cloud in the day to day. Burning our chamber. Like minds come together, let's elevate to higher states. Burning our chamber. Inhale, exhale, a peaceful cloud in the day to day. Burning our chamber. Like minds come together. Night, I like to think of myself as a villain. Okay. Kidnap your sentence, watch your paragraph catch feelings. I autograph this track, witness the sound of that. In the business of shitting, get your mark hole and it's a wrap. My part of speech beyond reach, like Gandhi on the search inside me with hopes to finally find peace. They say it's just another step away, just another step away. As these words sway, a dramatic phrase on the pin stage, fire ablaze. I write myself in the maze. Aqua Naru sur Radio Django. Une femme de plus qui chante pour conclure cette émission spéciale sur la thématique de la femme. Six sujets au menu de ce grand direct consacré à la Journée internationale de la femme. Les activités de ce mardi 8 mars à Lausanne, c'était en début d'heure. Le statut de la femme en Côte d'Ivoire. La question du genre selon Voguet, parle-moi femme. Et le combat des femmes, c'était le menu de cette édition spéciale du grand direct de Radio Django qui consacrait ce soir cette émission spéciale à la Journée de la femme. Une émission spéciale que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, une deuxième émission spéciale qui sera, elle, consacrée à la semaine d'action contre le racisme. Une heure d'émission, puis une heure et demie de débat organisé par la LICRA notamment. Vous pouvez retrouver sur notre site le descriptif de la semaine prochaine. On vous a tout mis en lien. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 18h pour un nouveau grand direct en direct et en public de Pôle Sud comme chaque semaine. Je vous souhaite une très très belle suite de soirée à l'écoute de nos programmes et à bientôt.
Radio Django, le grand direct. 18-19h.
Well, then fuck it till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time. Shake your hand, hit that job, Jack.